Muriel Balamont est avec nous. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Les socialistes, les jeunes socialistes, veulent placer la bataille pour l'égalité hommes-femmes jusque dans la langue française. Ils souhaitent que les entreprises utilisent le langage qu'on appelle épicène, Muriel.
Oui, préférer le corps enseignant au professeur, préférer l'élection de la présidence à l'élection du président. Ça, c'est mettre en pratique le langage épicène, un langage qui veille à l'égalité entre les genres sans préférence, utilisant des mots pouvant être employés indifféremment au masculin comme au féminin. Pour les jeunes socialistes, la bataille pour l'égalité salariale où l'égalité des chances passe aussi par le langage. Donc, une petite fille se rêvera elle aussi en astronaute ou en pilote, mais elle ne se projettera peut-être pas en tant que pompier. D'où l'intérêt à trouver un langage neutre, le langage épicène. Et après s'être généralement imposé dans les textes de loi et les administrations, ce qui rend parfois les textes un peu lourds, c'est la porte des entreprises que ce langage doit passer maintenant aux yeux des jeunes socialistes. Une façon comme une autre pour les femmes de faire éclater le plafond de verre ou du moins de l'en approcher, à moins que ça n'agace davantage que ça n'aide.
Désexualiser le langage, est-ce utile à la cause des femmes? C'est le débat qu'on vous propose aujourd'hui. Pour y participer, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Facebook ou Twitter ou encore par téléphone au 0800 23 33 33.
En ligne directe, Tania Baril, Muriel Balamant.
Et ce matin, j'accueille Caroline Dayer, François Spiron et Marc Boivin. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Caroline Dayer, vous êtes psychologue à l'Université de Genève. Vous avez publié l'année dernière le livre « Sous les pavés, le genre, hacker le sexisme » aux éditions de l'Aube. François Spiron, directrice de l'association PACTE, association pour la promotion des femmes dans l'économie. Et Marc Boivin, écrivain, avocat de formation. Et on a également l'occasion de vous entendre dans les Décodeurs sur la première.
Les Décodeurs et les Décodeuses, je précise.
Voilà, merci de la précision. On est en plein dans le débat. Caroline Dayer, féminiser, désexualiser la langue. Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer, le fait d'utiliser le langage épicène?
Je trouve que le langage épicène pose une question fondamentale, c'est en quoi est-ce que le langage que nous utilisons est le reflet, en fait, de notre conception du monde. Donc moi, je parlerais plutôt de langage inclusif, pour ma part, parce que quand j'écris autant des articles scientifiques que quand je communique à la radio, par exemple, mon but, c'est de pouvoir m'adresser à l'ensemble des personnes et ne pas partir du principe justement que je vais utiliser ce qu'on appelle le générique masculin, puisqu'on va toujours dire qu'il est neutre alors qu'il ne l'est pas du tout.
Mais en quoi ces changements, que ce soit dans le langage écrit ou dans le langage parlé, en quoi ça peut aider les femmes dans le milieu professionnel, dans les entreprises par exemple, comme le souhaitent les jeunes socialistes?
Alors concernant le monde du travail qui concerne un de mes champs justement d'expertise, on voit très bien que les études montrent que si les offres de postulation sont rédigées au ce qu'on appelle le générique masculin, les femmes vont moins postuler. Donc on voit qu'il y a vraiment des résultats extrêmement concrets. Pourquoi on observe ce genre de situation? C'est pas très étonnant. C'est parce que le langage va, comme je disais, non seulement refléter notre conception du monde, mais le langage a un effet sur les représentations sociales et nos actions. Donc plus on aura un langage égalitaire, plus on va aussi avancer vers l'égalité. Le langage ne suffit pas, mais il est nécessaire pour avancer réellement vers l'égalité.
François Spiron, vous partagez cet avis. Est-ce que, selon vous, on peut faire le lien entre la féminisation de la langue et l'accès à l'égalité homme-femme?
Alors tout à fait. Alors par exemple pour les fonctions, les titres, c'est très important. On voit encore des cartes de visite. Une femme me tend sa carte de visite, c'est marqué sous-directeur. Voilà, il y a des entreprises encore que je nommerai pas qui ont ce type d'habitude. Et la femme elle-même est un peu gênée en me donnant cette carte de visite. Mais c'est pas elle qui a le pouvoir de décision. C'est peut-être le responsable de la communication. Allez savoir si c'est un homme ou une femme. Voilà, donc sur la fonction et les titres, on s'est battu longtemps pour ça, parce que c'était important justement qu'on puisse se projeter dans tous les métiers, qu'on soit un homme ou une femme. Et c'était autant pour les hommes qu'il y ait des titres qui sont masculins dans les métiers qui sont dits féminins. Hein, c'était dans les deux sens. Maintenant, pour revenir par exemple aux offres d'emploi qui sont citées tout à l'heure, c'est vrai que c'est important. Alors de ne pas mettre les femmes en parenthèse, si possible, hein, mais de mettre, par exemple, directeur, directrice. Mais cela dit, on voit encore beaucoup d'annonces, par exemple écrites, où la photo, on a un homme, une femme, et la femme est en arrière-plan, si possible, même flou, vous voyez. Donc il n'y a pas seulement le terme, c'est important de mettre directeur, directrice, mais il y a ensuite le contenu du texte, les mots utilisés, et l'image qui est donnée et la photo qui représente et qui peut arrêter. Donc je dirais que le texte c'est un des éléments, le titre c'est un des éléments, la féminisation c'est un des éléments, mais ce n'est pas l'ensemble. Alors justement, selon vous, on l'a dit, hein, il y a des efforts qui ont été faits dans les administrations pour favoriser la neutralité, par exemple, surtout dans les textes. Est-ce que ça a servi à quelque chose, quand même, concrètement ?
Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Parce que, je vous dis, on est comme ça, on se sent juste, on est dans ce poste-là et on se sent concerné par les textes. Maintenant, de vouloir absolument, dans un texte, mettre tout le temps le tiret, alors est-ce que c'est un slash et un tiret, etc. Et en oublier le sens du texte, comme je vois parfois aller à l'extrême, ça peut desservir le combat, puisque c'est vraiment les mots importants et les mots clés on doit faire attention.
Donc
quand on dit bonjour, on doit dire bonjour madame, bonjour messieurs. Voyez, donc et puis après si on garde le mademoiselle, ça casse tout le reste. Voyez,
vous avez le sentiment que ça va trop loin?
Alors ça peut aller trop loin. Hein, je dis si on met un règlement, certaines entreprises pourraient l'appliquer à la lettre, et puis derrière ce règlement, on fait ce qu'on veut. Voyez. Donc finalement, ça peut desservir. Donc il faut faire, je crois beaucoup à la sensibilisation dans les entreprises, à dire que c'est important de s'exprimer autant aux hommes qu'aux femmes. Mais tout ce qui est contrôle, police et réglementation, moi je m'en méfie aussi parce que ça peut être contre-productif. Mais tout dépend de la façon dont le bon sens. Voilà. Et dans un texte, on peut dire la personne au lieu de dire toujours un homme, une femme. Comme ça, on alterne un peu Le français permet quand même beaucoup de nuances.
Marc Boivin, quel regard vous portez sur ce débat? Est-ce que selon vous, cette féminisation du langage sert vraiment la cause des femmes?
Mais moi déjà, j'aimerais dire que j'ai rencontré l'autre jour un soldat de l'armée suisse qui m'a tendu sa carte de visite et c'est écrit « recrue » au féminin. Vous vous rendez compte qu'il y a aussi une inversion des genres et il y a aussi une discrimination à rebours. Non, je plaisante. Moi j'ai un double regard. D'une part, le regard du juriste, c'est-à-dire que il y a, et je comprends fort bien, un combat pour rétablir établir encore plus fermement la place de la femme dans notre société. Pour moi, cette place est essentielle. C'est un acquis qui nous vient des Lumières, notamment. Là encore, les Lumières, alors qu'il y avait autant de femmes que d'hommes Lumières, et c'est un terme également féminin. Enfin, ça, c'est un acquis sur lequel je n'ai pas du tout envie de revenir. Je pense que, et j'espère que tout le monde s'accorde. Maintenant, est-ce que la méthode pour arriver à ce résultat est une bonne méthode? Et là, on travaille sur le langage. Et j'aurais tendance à dire oui, décelons les injustices au cas par cas de manière pragmatique, j'invente un peu des mots comme ça, des adjectifs, mais ne répondons pas le dogme à tout va et à tout craint. Là j'y vois effectivement vous parliez de police, j'y vois un langage de police, hein. D'ailleurs Roland Barthes en parle dans le degré zéro de l'écriture quand il affirme que le langage politique devient finalement un langage de police et qu'on instaure dans notre façon de s'exprimer le bien, le mal et qu'on crée en fait beaucoup plus de clichés qu'on en enlève. C'est-à-dire que si je ne respecte pas le langage épicène, alors à ce moment-là ça va faire de moi une personne qui serait éventuellement sexiste, macho, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc moi j'ai toujours de la peine quand on veut instaurer des solutions de base, des solutions génériques, préprogrammées, et que finalement la solution devient le problème. Et donc on est obligé de faire des débats le matin à la radio, le lundi matin, et ça fatigue peut-être tout le monde. C'est un peu, si vous voulez, mon point de vue. Sur la question stricte du langage, maintenant, j'ai aussi un regard d'écrivain.
On va y venir justement. On va parler dans un petit instant de la question du langage même. Juste sur cet aspect, Caroline Dayer, qu'on vient d'entendre, est-ce que, à force de vouloir trop mettre de règles, à vouloir policer, est-ce que ça rend pas tout ça très antinaturel, finalement?
Comme je le disais tout à l'heure, moi ce que je trouve intéressant, c'est plutôt le fait que le langage ne soit pas figé. Donc cette question du langage épicène, au contraire à mon avis, réouvre des possibles sur la langue et sur l'inventivité, puisque justement on parlait de dogme tout à l'heure, on pourrait plutôt renverser la question, est-ce que c'est pas justement un dogme qui a été imposé à un moment historique de dire on va parler maintenant au soi-disant neutre alors qu'on sait qu'il se prétendait universel alors qu'il était masculin. Donc je trouve qu'au contraire l'idée est de se dire mais finalement, quels sont les dogmes que véhicule notre langue et quelle capacité d'action on a sur ces dogmes-là. Et moi-même, justement, j'ai eu un usage de l'écriture, justement, qui est multiple et diversifié. Donc, je pense au contraire que comme le langage n'est pas naturel, il n'est pas inscrit dans le marbre, c'est au contraire une très bonne occasion pour, justement, l'utiliser comme vecteur des messages aussi qu'on a envie de faire passer dans notre société.
Avant de poursuivre ce débat, on va voir ce que pensent les auditeurs sur cette question. La féminisation de la langue sert-elle vraiment la cause des femmes? Et ce matin, Muriel, on peut voir que les auditeurs sont très critiques avec le langage épicène.
Oui, un accueil plutôt hivernal pour cette proposition sur les réseaux sociaux. Un accueil que résume Frédéric avec humour sur Twitter. Déjà qu'il n'y a pas assez de place en 140 caractères, si maintenant, en plus, il faut rajouter des « e » partout, nous dit-il. Pardon. Et ça illustre bien le scepticisme sur les réseaux sociaux. Pour Claire-Marie, elle nous écrit sur Twitter « Qui sont vraiment les femmes qui se sentent oppressées par le langage ?» Hashtag help. Et Maria nous dit « C'est futile et encombrant. Mon cerveau fait le travail de traduction si nécessaire. » Et c'est parmi les politiques que l'on trouve un défenseur du langage épicène, c'est le vert Pierre-Alain Jacquet. C'est par les actions quotidiennes comme le langage qu'arrivera l'égalité, nous écrit-il. Et c'est du genre neutre dont il a été question sur les réseaux sociaux. Un genre neutre qui, pour certains, est une bonne chose. Par exemple, pour le socialiste Mathieu Loup, il ne s'agit pas de cause des femmes, mais de faire évoluer le langage avec la société. Un genre neutre qui n'est pas du goût de tous. Guillaume Saouli du Parti Pirate se demande si la finalité du langage épicène ne serait pas de gommer le genre et donc in fine de gommer l'individualité, la neutralité de genre ou l'intégralité des genres. Quel est le but ? Une société gommant le genre ?
Le but, c'est d'en arriver là, Caroline Dyer, c'est de gommer le genre. Il faut viser le genre neutre, comme d'ailleurs le tentent parfois les pays scandinaves.
Pour ma part, je trouve que c'est exactement cette question qui est fondamentale. Faut-il genrer ou dégenrer le langage ? Et de nouveau, pour ma part, ce que je disais tout à l'heure, comme on apprend ce langage-là, c'est tout à fait logique que les personnes soient un peu agacées, puisque si on avait appris depuis tout petit et tout petite à justement avoir un langage inclusif, où on peut vraiment apprendre des formulations qui ne nous font pas avoir plus de caractère, parce que j'entends aussi les professionnels, par exemple, du journalisme, qui se disent « mais on a déjà suffisamment de contraintes ». Mais si on l'apprenait depuis tout petit et tout petite, on n'en serait pas à s'agacer de cela. Donc moi, j'espère simplement qu'on va apprendre à avoir un langage, comme l'autre personne le disait tout à l'heure, qui est beaucoup plus, on va dire, en adéquation avec nos réalités sociales. Et surtout, aspect que je voulais souligner, ça ne concerne pas du tout la cause des femmes. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est plutôt comment justement on peut aller vers davantage d'égalité, puisqu'autant les hommes que les femmes sont enfermés dans des stéréotypes de genre.
François Spiron, cette égalité, elle peut vraiment s'atteindre par le langage, en étant aussi extrême que ça, en voulant imposer des aigus, partout, enfin, dès qu'il y a des textes masculins, il faut mettre le féminin qui suit. Est-ce que ça peut vraiment atteindre son but ?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des choses qui peut aller vers un objectif. C'est pas la seule chose, parce que s'il suffisait de féminiser les textes pour que les femmes arrivent au poste à responsabilité dans les entreprises, eh bien ça serait déjà fait, n'est-ce pas ? Donc c'est plus subtil que ça. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on reconnaisse dans une population qu'il y a des hommes et des femmes. Moi, comme ingénieur et PFL, ingénieur civil, eh bien on me mettait monsieur, et quand on n'enlevait pas le E de Françoise, puisque on disait c'est pas possible, alors je recevais du courrier monsieur François Piron. C'était, je me sentais quand même extrêmement peu respectée dans mon titre. C'est comme si je n'existais pas. Alors ça, c'est une des questions fondamentales, c'est de reconnaître qu'il y a des hommes et des femmes dans tous les métiers. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans un règlement que personne ne lit dans une entreprise, que vous mettiez des E et des ES partout, dans ce règlement qui, de toute façon, ne va pas être publié et qui ne va peut-être pas forcément changer la face du monde, alors là, je trouve qu'on exagère trop. Alors la tendance actuelle, c'est de dire « comprenez le texte comme s'adressant autant aux hommes qu'aux femmes hein ». C'est-à-dire, ça, c'est presque... on en a marre de rédiger comme ça, donc on vous met cette phrase au début, puis fichez-nous la paix. Il faut mettre dans l'importance, dans le poids des mots, quand c'est important, dans une annonce,
voyez, donc il y a des termes qui arrêteraient la candidature féminine, et c'est ça qui est important. Ne nous arrêtons pas à, voilà, au langage épicène, disons dogmatique. Voilà.
Une réaction d'auditeur, Muriel.
Oui, une question intéressante de Martial qui nous a appelé de Genève. Il nous demande, est-ce que dans les pays où la langue n'est pas de genre, comme la Turquie ou en Amérique, où les termes sont, comme manager sont neutres, est-ce qu'il y a plus de femmes dans les positions professionnelles, et est-ce que la différence de salaire est moindre?
Eh bien, pas forcément. Hein. C'est-à-dire que, voilà, après, il faut regarder quelles sont les femmes qui arrivent au pouvoir dans ces pays. Est-ce qu'elles ont des enfants? Est-ce qu'elles n'ont pas d'enfants? Est-ce qu'elles peuvent être, disons, dans leur identité féminine, comment elles sont traitées? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ça. Mais alors, c'est vrai que l'anglais facilite. Alors, la carte en anglais où c'est marqué manager, c'est plus facile.
Allez le dire.
Mais ça n'est.
Pardon. Allez le dire aux Québécois qui mènent aussi un autre combat là-dessus.
Oui, tout à fait. Et puis, ils ont un langage extrêmement sympathique aussi et qui nous apprend aussi que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'imagination dans le français. Et moi, je suis, comme on a dit avant, non, mais je pense qu'on ait cette imagination, cette créativité.
Si je peux encore me permettre peut-être une dernière intervention.
Marc Boivin, allez-y.
Oui, moi j'ai toujours de la peine. Ça, je suis parfaitement d'accord avec votre dernière interlocutrice. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir dans le combat pour l'égalité ou pour le féminisme une victoire en fait du politiquement correct. C'est à ce niveau-là que je me situe, si vous voulez, dans mes engagements par rapport à l'évolution de la langue. Et je pense que insidieusement, on assiste à la victoire du politiquement correct quand on veut remettre à niveau toute forme d'écriture pour anticiper toute différence et toute injustice. J'aimerais juste vous faire une citation. Je vous cite. Hein. Voilà ce qu'il faut enseigner aujourd'hui à l'école. Deux priorités. Premièrement, apprendre à lire. Deuxièmement, accepter le politiquement incorrect. Et j'ajouterai troisièmement, apprendre à faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Certaines de nos élites politiques, mais aussi journalistiques, sont obsédées par le moralisme en faisant de la conformité au politiquement correct la valeur numéro un. En faisant d'aide, donc, la valeur numéro un, on tue la littérature. Et cette phrase, c'est Elisabeth Badinter qui le dit, qui pour moi est ce qu'on peut faire de mieux, de plus intelligent en matière de défense des minorités, notamment en faveur du féminisme. Lorsque les combats sont gagnés, parfois, il faut un peu modérer, disons, ses ardeurs.
Caroline Dayer, je vais vous laisser réagir. Est-ce qu'on est dans le politiquement correct avec le langage épicène?
Je voulais tout d'abord réagir sur ce fait de Badinter qui défendrait les minorités. À ce que je sache, les femmes ne sont pas une minorité sur cette planète. Et je trouve que le débat, il est exactement là. Et que le... Ce n'est pas du tout tuer le langage, à mon avis, mais bien au contraire, comme j'ai tout à l'heure, faire preuve de créativité et laisser le choix aux personnes aussi, justement, de faire preuve d'invention. On voit que dans des textes littéraires, de nouveaux pronoms comme « iel » se créent aussi, parce que les artistes ont ce pouvoir de création et d'insatisfaction et de proposition, j'ai envie de dire. Et pour revenir alors à votre question sur le politiquement ou impolitiquement correct, je reviens à mon argument de base. Est-ce que justement de partir du principe qu'on est censé parler au masculin, est-ce que ça c'est pas extrêmement politiquement correct? Et au contraire, je trouve que ce qu'il y a d'incorrect, c'est de pouvoir remettre en question cet aspect-là et de se dire mais quelle justement représentation on a envie de véhiculer. Et le langage est un vecteur vraiment primordial. Et je terminerai par ce qui a été dit par ma collègue tout à l'heure. Je pense aussi que l'égalité s'écrit, l'égalité se parle, l'égalité passera par le langage, mais ne passera pas uniquement par le langage. Donc à mon avis aussi, c'est toute une architecture qu'on est obligé de mettre en place, mais on a l'impression que c'est comme une coquetterie, le langage. Alors qu'au contraire, le langage façonne notre façon de voir le monde et nos représentations sociales. Donc c'est, à mon avis, en mettant en place une architecture qui va y compris prendre en charge le langage. Mais comme on disait tout à l'heure, s'il suffisait de mettre les choses au féminin pour qu'on aille davantage vers l'égalité et qu'on ait moins d'écart salarial, ça se saurait. Donc c'est un élément parmi d'autres et c'est un dispositif, à mon avis.
Alors on a parlé de l'égalité homme-femme. Marc Boivin, vous mentionniez aussi le niveau de la langue là-dedans.
Oui.
Est-ce que ce qui est souvent critiqué, hein, au langage épicène, c'est le fait
qu'il y ait beaucoup de lourdeur qui l'accompagne.
Mais tout à fait.
C'est ça qui vous gêne en ce qui concerne la langue ?
Bien évidemment, ce qui me gêne, c'est-à-dire que la langue française est faite de certaines règles, d'une pincée de règles, mais surtout d'une grosse louche d'exceptions. Et c'est ce qui fait sa valeur. Quand on veut créer un règlement, parce que là, on parle du langage épicène, hein, je ne veux pas aller non plus dans d'autres débats ou sous-débats, et notamment, effectivement, des dogmes qui ont placé la femme dans un rôle tout à fait inconfortable, qui ce rôle inconfortable, et je suis tout à fait prêt à le reconnaître, et il faut le dire, provient aussi des dogmes que l'on a créés à l'époque sur la prééminence du genre masculin par rapport au genre français, féminin, à une époque où l'enseignement était le fait des personnes d'église. Alors là, on peut effectivement voir qu'il y a la source des problèmes remonte probablement à la manière dont on envisage les femmes dans les religions, notamment les religions monothéistes. C'est un autre débat. Maintenant, on a une langue qui est une architecture faite de contresens, faite, comme je l'ai dit, beaucoup d'exceptions. Moi, j'y vois comme une espèce d'architecture byzantine, ce qui fait son charme, et puis vouloir absolument, par le biais d'un règlement pour des raisons politiques, comme je l'ai dit, vouloir absolument faire table rase de tout cela, parce que c'est un des risques du langage épicène. Alors à ce moment-là, on va suppléer une autre forme d'architecture que je qualifierais peut-être d'un peu plus stalinienne. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange profondément. J'écoutais hier soir encore Reggiani quand il dit « ma fille, mon enfant, mon amour ». Voilà, il utilise beaucoup de masculin pour parler de femmes. Bon, ça ne me choque pas. Bien au contraire, je vais pas lui demander encore de féminiser sa voix qui est grave et qui est éminemment poétique.
François Spiron, vous vouliez réagir?
Oui, là j'ai l'impression qu'on mélange tout. Hein. Donc, on ne vous demande pas d'avoir un ton féminin à la radio. Est-ce que j'ai un ton masculin? Enfin bref, là on va beaucoup trop loin. Je voudrais revenir sur le politiquement correct. Effectivement, le risque pour certaines entreprises, c'est de se dire, on a féminisé les termes et tous les critères de sélection cachés qui favorisent plutôt les hommes et les femmes à l'interne, eh bien, on les oublie et on met en avant. Voilà, nous avons des statuts, des règlements, ils sont conformes, on a mis des E partout, on a allongé des textes, ok, et c'est bon. Et c'est ça le risque. Donc, c'est pour ça que je dis que les mots qui sont clés et qui sont importants et qui désignent des postes à responsabilité qui doivent être autant ouvert aux hommes et aux femmes, là c'est important, et le reste, il y a de l'imagination, et je crois qu'on a fait beaucoup de progrès dans ces textes, en tout cas maintenant dans le langage, et on est en train d'imaginer des autres façons de formuler, on dit la personne qui aurait ce poste, ou homme ou une femme, et on alterne dans les textes, et ça devient beaucoup moins lourd et beaucoup plus sympathique à lire. Et donc, on a, en 20 ans, fait beaucoup de progrès dans ce langage épicène.
Justement, il n'empêche, ça fait plus de 20 ans que ce combat, il existe. Comment se fait-il qu'il ait autant de peine à avancer concrètement ?
Non, mais il a avancé. Non, mais franchement. Hein ? Je reviens encore à l'EPFL, où maintenant, on peut choisir de mettre un E à ingénieur.
Mais il a avancé dans le milieu de l'administration. Là, maintenant, on fait
pas
un pas de plus
en
essayant de le faire dans les entreprises. Ça prend quand même beaucoup de temps.
Non, mais alors le langage, c'est peut-être une des choses qui a le plus avancé. On a de plus en plus d'annonces dans la presse où c'est les deux genres qui sont... On n'exclut pas l'un ou l'autre. Donc, pour les postes sans responsabilité aucune, ça reste extrêmement genré. Hein, ça, c'est quand même un peu étonnant. Il y a encore beaucoup de choses, mais on a avancé. Moi, je vois les choses qui ont évolué, et il y a des choses qu'on se permettrait plus. On dit plus « bonjour, messieurs » dans un cours, quand on commence dans certaines formations. Comme moi, j'ai entendu des cours où on disait « ah, mademoiselle, excusez-moi ». Bon, donc ça, c'est quand même des avancées. Maintenant, il ne faut pas, sous prétexte, vous savez, au niveau politique, on a envie de trouver une solution pour des raisons politiques, et on voudrait trouver la solution. C'est-à-dire, on va féminiser, comme ça, on a fait quelque chose pour l'égalité. Et je trouve que les solutions politiques, moi, je m'en méfie toujours un peu. Elles sont un peu faciles.
On est tous bien d'accord, finalement.
Voilà. Oui, Marc Boivin.
Mais oui, on est d'accord. On est parfaitement d'accord.
Une dernière question, Caroline Dayer, pour conclure.
Malgré tout, est-ce que l'évolution du langage, c'est pas quelque chose qui doit se faire naturellement, plutôt que d'essayer de le passer en force?
Alors, comme je disais, c'est pas tout du tout naturel de parler au masculin. On l'a appris. Donc, moi qui travaille aussi beaucoup...
Est-ce que la langue, ce n'est pas ça? C'est justement apprendre une langue. Elle a ses particularités, ses exceptions. Est-ce que ça fait pas partie de
l'évolution de la langue? Tout à fait. La question, c'est aussi de se demander qui, à quel moment, comme on le disait tout à l'heure, a décidé qu'on parlerait ainsi. Et c'est plutôt, au contraire, de se demander quel est notre pouvoir à travers la langue, puisque les mots ont un pouvoir. Donc, je rejoins aussi ce qui a été dit tout à l'heure, pour terminer quand même sur l'égalité. Féminiser les mots ou utiliser un langage qu'on appelle inclusif ou épicène, c'est pas un garant de l'égalité. Par contre, ça passera aussi par là.
Muriel, une conclusion?
Oui, les défenseurs du langage épicène sont arrivés au fur et à mesure de l'émission. C'est Catherine qui nous a appelé pour nous dire que les hommes ne se rendent pas compte de la violence symbolique faite aux femmes. Toute l'année, on parle aux hommes et uniquement aux hommes. 4 femmes et un chien se promènent. Eh bien, ce sera un « il » qui les caractérisera.
Et on débattait ce matin du langage épicène, de la féminisation de la langue, ce que souhaitent les jeunes socialistes au sein des entreprises pour favoriser l'égalité homme-femme. Merci à nos 3 invités d'y avoir participé, Caroline Dayer, François Spiron et Marc Boivin. Très bonne journée à tous.